Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et bien évidemment, je vous souhaite une excellente année 2022 avec un souhait, un seul, pas deux, que l'on sorte enfin de cette interminable crise sanitaire du Covid-19. C'est vraiment ce qu'on se souhaite ensemble pour cette nouvelle année. Et au sommaire donc de ce premier week-end de 2022, nous allons parler de secteurs de l'économie ou d'entreprises dont on devrait beaucoup parler donc cette année. C'est le cas de Carbios, basé à Clermont-Ferrand. Cette start-up créée il y a 10 ans utilise des enzymes pour donner une seconde vie à des plastiques actuellement peu recyclables. En 2022, on continuera également à parler du retour en grâce de l'industrie en France. Un exemple parmi tant d'autres, le slip français qui vient d'ouvrir une usine de pantoufles dans le département de l'Indre. Et puis en 2022, on croit également très fort en nos biotech et en nos medtech. Là encore, un exemple parmi de nombreux autres, Avatar Médical, une émanation de l'Institut Pasteur et de l'Institut Curie. On est là au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle mise au service de l'imagerie médicale. Mais tout d'abord, s'il y a bien un mot dont on devrait beaucoup parler dans les années à venir, c'est métaverse ou métavers en français, la contraction de méta et de univers, une sorte de doublure numérique du monde physique accessible par Internet. Les enjeux et les investissements semblent d'ores et déjà considérables, à tel point que le musicien Jean-Michel Jarre, qui a toujours démontré son attachement aux nombreuses innovations technologiques, porte depuis quelque temps le sujet de la souveraineté dans le métavers. En clair, tout faire pour faire dans ce secteur émerger un géant français. Il en parlait dans Tech & Co il y a tout juste un mois, c'était le 1er décembre.
Le métavers, en deux phrases, c'est en fait le nouvel univers numérique qui sera l'extension du monde réel, c'est-à-dire le nouvel Internet. Et aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, c'est métaverse en anglais, mais métavers en français, c'est-à-dire un Internet dans lequel on pourra rentrer avec son double numérique, son avatar, pour pouvoir travailler, rencontrer des gens, créer. Et en fait, il y a donc une urgence d'acquérir notre autonomie sur le plan de cet Internet, je dirais 3.0. On est à l'origine, ce que peu de gens savent, on est à l'origine d'Internet comme système, et on se l'est finalement fait prendre par les Américains. Ne répétons pas la même erreur cette fois-ci, et il y a effectivement une urgence à acquérir cette autonomie. Alors, il y a eu, l'État français a décidé d'attribuer une subvention de 200 millions d'euros au ministère de la Culture, ce qui est une bonne chose, parce que ça n'a rien à voir avec les 10 milliards d'euros qu'investit Facebook dans ce domaine, mais si ces 200 millions d'euros peuvent servir d'amorçage adressé à des gens pertinents dans ce monde. Il y a ici en France des tas de startups qui sont formidables.
Tout à fait.
Notamment dans la VR, des gens comme je citais Vroom, Backlight, Garou, des tas de gens. Et il y en a beaucoup d'autres et je ne peux pas toutes les citer. Et je pense qu'il est temps justement de jouer collectif, de créer cette plateforme française pour acquérir notre autonomie. Et je voudrais dire que justement toutes les créations de réalité virtuelle ne sont absolument pas ne viennent pas du tout concurrencer le spectacle vivant ou le monde physique. Ça me rappelle un petit peu ce qui existait à l'époque des Frères Lumière, au début du cinéma, quand les gens du théâtre vivant à l'époque disaient « mais ces gens qui s'agitent finalement sur un écran, sur une toile, ne sont pas des vrais acteurs, parce que finalement un véritable acteur, c'est celui qui est physiquement sur scène devant un public réel. » Et le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît. Je pense que ça va être exactement la même chose, je suis convaincu que ça va être la même chose pour le monde virtuel. Il va y avoir toute une nouvelle manière de penser, de composer la musique, de penser le son en multicanal, en binaural, en Dolby Atmos, etc., qui vont finalement révolutionner la manière de faire de la musique, générer des dizaines de milliers d'emplois, et puis n'oublions jamais qu'au fond, les oreilles ouvrent les yeux.
Et on va rester dans l'univers de la tech avec une toute jeune entreprise qui s'appelle Kickmaker et qui est, pour résumer, une sorte de Dassault système, mais à plus petite échelle. En clair, Kickmaker propose à ses entreprises clientes de modéliser et d'imaginer la fabrication industrielle de leurs produits high-tech avant l'étape de la commercialisation. C'est une étape donc décisive qui permet ensuite d'optimiser la future production à plus grande échelle. Alors Kickmaker a déjà travaillé pour de nombreuses entreprises, notamment la fabrique à histoire de l'Uni ou encore les produits de Vialet, mais aussi les vélos Angel Bike. Eric Helmlas, le cofondateur de Kickmaker, était fin novembre lui aussi sur le plateau de Tech & Co.
Nous, notre métier, c'est d'accompagner les projets depuis l'idée jusqu'à la production série. Et pour cela, en fait, on a créé trois offres de services. La première offre de service, c'est ce qu'on appelle le Kick Lab. C'est une Fab Lab qui nous permet justement de travailler sur de l'idéation, sur du concept. Ça nous permet de faire des prototypes et de valider une faisabilité industrielle. Et une fois qu'on a validé cette faisabilité, on dispose d'un cahier des charges. Et une fois, ce cahier des charges va nous servir à spécifier et à concevoir le produit. Et à ce moment-là, on fait intervenir nos 180 ingénieurs spécialisés pour concevoir un produit, mais surtout, un processus de fabrication compatible avec nos usines françaises.
Ah, d'accord. Parce que l'idée, c'est que ce projet-là reste en France, en fait.
C'est notre vocation. On a deux valeurs fortes. Le made in France, le made in local et l'éco-conception. Et effectivement, on conçoit un produit, mais également un processus de fabrication. Et pour valider l'ensemble, on a créé une troisième offre de service qui est celle de l'usine partagée. On a créé une usine partagée en centre-ville qui nous permet de faire des pré-séries. Ça répond à deux besoins. Tous nos clients nous demandent, dans l'innovation, une solution pour fabriquer 50, 100, 1000 exemplaires. Sauf que des petits volumes comme ça n'intéresse pas nos usines traditionnelles.
C'est clair.
Donc on a dû mettre en place une chaîne de production au plus proche de nos clients.
Agile, donc ?
Agile, complètement agile et partagée, ce qui signifie qu'on est capable de travailler sur différents projets en parallèle pour qualifier un produit, mais je répète, un processus de fabrication. Et une fois qu'on a validé l'ensemble, ça nous permet naturellement de transférer la prod dans la bonne usine en France.
Incroyable. Alors vous avez quand même en plus un joli pédigré, hein. Angel Bike, vous avez travaillé avec Marc Simoncini pour l'élaboration de ce vélo, qui justement est fabriqué maintenant en France.
On a plein d'autres success stories, comme l'Uni, la fabrique à histoire. C'est nous qui sommes à l'origine de la relocalisation en France.
Oui.
Et comme vous le savez, on n'assemble pas en France de la même manière qu'en Chine. Et là, c'est un travail remarquable qui a été fait par nos ingénieurs de simplification. Et on a adapté une conception compatible avec nos usines, encore une fois, et on a réussi à produire près d'un million d'exemplaires.
De Vialet aussi ?
De Vialet, tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez fait pour De Vialet ?
Avec De Vialet, on intervient beaucoup au plus proche de leurs équipes et pour des raisons de confidentialité, je ne pourrais pas vous en parler.
On va à présent parler d'une entreprise qui sort, elle, à vitesse grand V de la confidentialité. C'est Carbios qui vient de recevoir, c'était juste avant Noël, un prêt de 30 millions d'euros de la part de la BEI, la Banque Européenne d'Investissement. Carbios, c'est cette start-up créée il y a tout juste 10 ans, en 2011, hébergée par Michelin à Clermont-Ferrand, et qui a mis au point une technologie très prometteuse, utiliser des enzymes pour donner une seconde vie à des plastiques actuellement peu recyclables. Au mois de septembre, le démonstrateur industriel a été inauguré à Clermont, ce qui va permettre de valider à grande échelle le procédé et puis à terme, sans doute à l'horizon 2023, de créer une usine grandeur nature. Martin Stéphan, qui est le directeur général délégué de Carbios, était l'invité de Good Morning Business le 28 septembre dernier.
On décompose le plastique dans ces molécules, ces éléments d'origine qu'on appelle des monomères, qui sont des éléments chimiques, de telle façon à ce qu'on puisse les recombiner ensuite pour refabriquer du plastique. Donc c'est vraiment une technologie de recyclage à l'infini et c'est surtout une technologie pour la fin de vie des plastiques et des fibres. Et nous sommes les premiers et les seuls au monde à avoir développé des technologies biologiques pour la fin de vie. C'est important de noter la fin de vie parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle recyclage, c'est surtout la réutilisation.
C'est ça. Vous, c'est la réincarnation.
En quelque sorte. La réutilisation, c'est bien, ça permet d'optimiser en fait l'emploi du matériau, mais c'est pas suffisant. Quand on dit qu'on transforme une bouteille en fourrure polaire, c'est très bien, parce que ça donne une deuxième vie à ces produits. Mais la fourrure polaire, bah, une fois qu'elle est usée, elle sera incinérée ou enfouie, alors que grâce à notre technologie, on peut en refaire des bouteilles ou on peut en refaire une fourrure polaire et inversement.
Alors c'est une incroyable aventure de 10 ans, hein, effectivement. Vous avez levé au total 160 millions. Aujourd'hui, chiffre d'affaires, zéro. Il faut avoir les reins solides quand même pour tenir aussi longtemps. Hein.
Il faut surtout avoir des actionnaires qui nous font confiance, qui se sont investis dans le long terme, et c'est ce qu'on a cherché le plus possible. Donc on a beaucoup d'investisseurs individuels.
Avec Truffle, mais aussi, c'est intéressant, avec des grands groupes de l'industrie, L'Oréal, Nestlé Waters, Pepsi, Suntory, Beverage and Food. Tous ces gens ont évidemment dans l'idée de pouvoir vendre ensuite auprès des consommateurs cette idée du plastique recyclable à l'infini.
Oui, d'ailleurs, après la validation scientifique de notre technologie qui a été illustrée par l'article de Nature,
on
a
eu la une de Nature,
tout à fait. Il y a eu la validation par le marché, puisque cette année, ces partenaires que vous venez de citer, L'Oréal, Nestlé, PepsiCo et Suntory, qui est Orangina Schweppes en France, ont présenté des emballages fabriqués avec des produits issus de notre technologie. Alors pourquoi ils se sont associés à nous ? Parce qu'ils ont besoin de technologies comme les nôtres pour pouvoir remplir leurs objectifs de développement durable et pour pouvoir changer en fait le profil environnemental de leurs emballages et bien pour sûr pouvoir répondre aux obligations légales, notamment l'obligation d'incorporer 25% de plastique recyclé à horizon 2025 dans l'Union européenne.
Les critères RSE et environnementaux qui sont donc de plus en plus au cœur de la stratégie des entreprises, on vient de le voir. Parlons à présent d'un autre sujet crucial pour nos économies, les sources d'énergie. En France, vous le savez, on n'a pas de pétrole, mais on a du nucléaire et la relance de notre filière dans ce secteur est une très bonne nouvelle. Et on a aussi de l'hydrogène décarboné, l'hydrogène vert. Le 16 novembre dernier, à Béziers, Emmanuel Macron a annoncé que 1,9 milliard d'euros allait être consacré à la mise sur pied de cette filière hydrogène décarboné. Carboné, et ce dans le cadre du plan France 2030. Et si le président était à Béziers, eh bien c'était parce que une des premières gigafactories d'hydrogène vert vient d'y être créée. C'est l'usine Genvia, née d'un partenariat public-privé entre le CEA et l'entreprise Schlumberger. Dans un instant, donc, on va écouter la présidente de Genvia, Florence Lambert. Mais tout d'abord, eh bien, c'est quoi l'hydrogène vert ? Écoutez les réponses de Jean-Baptiste Huette.
Amener d'ici 10 ans le kilo d'hydrogène sous la barre des 2 euros contre 12 aujourd'hui. C'est ce que promet Genvia. Son secret, l'électrolyse à oxyde solide. Une technologie de rupture qui permet de produire de l'hydrogène vert avec un rendement imbattable. De la vapeur d'eau est dissociée sous l'effet d'un courant électrique et d'une température de 800 degrés. Une technologie réversible, aussi bien capable de produire de l'hydrogène pour la stocker que de produire de l'électricité à partir d'hydrogène. Genvia est issue d'un partenariat public-privé, le CEA, Schlumberger, Vinci, Vicat. Genvia a déjà déposé une quarantaine de brevets. Inaugurée le 30 mars dernier, l'entreprise est l'une des premières gigafactories d'électrolyseurs. Sa technologie est jugée la plus efficace et la plus rentable pour la production d'hydrogène décarboné. Les effectifs doivent atteindre 500 personnes d'ici 2025. La région Occitanie prépare d'ailleurs un centre de formation pour recruter les profils nécessaires. Pour sa présidente, l'ambition est claire, faire de Genvia un acteur industriel de taille mondiale dans l'hydrogène vert.
Vous avez été créé en mars, fin mars, et vous apprêtez à devenir opérationnel quand ? À recruter 500 personnes quand ? Ça va très très vite du coup. Enfin, la France est capable d'aller du labo à l'entreprise. Hein.
Complètement, c'est un vrai message positif hein, de la recherche française, la recherche publique française qui est en mesure de développer des technologies hein, de niveau mondial, parce que cette technologie dont on parle, en fait, elle a plus de 40 brevets, et ce qui nous positionne en top mondial complètement. Mais faire des technologies, c'est bien, les industrialiser à des coûts compétitifs, c'est mieux, et c'est vraiment toute la philosophie de cet attelage entre la recherche publique française, donc le CEA, qui est co-actionnaire majoritaire avec le groupe Schlumberger, qui va vraiment nous permettre de projeter, donc je crois que la notion de vitesse est importante, hein, de projeter cette technologie dans un référentiel industriel. Alors ça va très vite, comme vous le soulignez, on a été créé au mois de mars, nous avons déjà un atelier qui fonctionne, et on aura un atelier pilote complètement automatisé l'année prochaine.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles utilisations concrètes, sur quelles utilisations ça va déboucher ?
Oui, il y a des secteurs qui émettent encore du CO2, les cimenteries, les aciéries, certaines industries chimiques. Et dans ce contexte, l'hydrogène va être un vrai atout pour les décarboner. En fait, on va utiliser le CO2 émis, on va produire de l'hydrogène en local et valoriser ce CO2 en faisant par exemple des carburants de synthèse. Donc au cœur de tout ça, il y a cette électrolyse. Il y aura donc des électrolyseurs Genvia sur ces lieux d'industrie de demain.
Alors après les ambitions tricolores dans le domaine de l'hydrogène vert, 2022, on l'espère, va aussi confirmer la bonne forme de la France dans les start-up de la biotech et de la medtech. Ces derniers mois, on vous a parlé, pour ne citer que quelques exemples, de Mad Pharma ou encore de 360 Medix. Et je recevrai d'ailleurs également le patron de Fine Earth la semaine prochaine avec ses mini-pompes cardiaques. Mais une autre start-up sur laquelle vont reposer de nombreux espoirs pour 2022, il s'agit de Avatar Medical, une jeune start-up franco-américaine créée il y a seulement 18 mois. C'est une émanation des instituts Pasteur et Curie et on parle là des apports de l'intelligence artificielle pour la transmission et surtout pour l'analyse de l'imagerie médicale. Élodie Briand-Litzler, qui est la cofondatrice d'Avatar Medical, était l'invitée de François Sorel sur le plateau de Tech & Co. C'était le 30 novembre dernier.
Avatar Medical, c'est une start-up qui a été créée l'année dernière à partir de travaux de recherche de Pasteur et Curie, qui développe un logiciel pour regarder les imageries médicales 3D, les scanners, les IRM des patients, dans un contexte de réalité virtuelle. Et c'est à destination des chirurgiens, effectivement, pour qu'ils puissent comprendre la totalité de l'information présente dans l'image dans un format qui leur parle, avec des outils d'interaction, afin qu'ils puissent prendre la meilleure stratégie pour leurs patients. Vous allez pouvoir avoir des informations précises sur la morphologie des tumeurs, l'architecture des vaisseaux, et pouvoir prendre des décisions de type marge de résection. Est-ce que je peux passer en endovasculaire pour la chirurgie vasculaire? Et décider de quelle stratégie vous allez pouvoir mettre en place.
Alors, si vous êtes avec nous à la télé, on est en train de vous montrer des images impressionnantes. Hein. Donc là, c'est ce que vous expliquez. Donc là, on peut imaginer que le médecin a son masque de VR.
Tout à fait.
Et plongé, en fait, dans l'organe, en quelque sorte.
Il est tout à fait plongé dans l'organe. Ici, en fait, on navigue au travers d'une IRM de cancer du sein. Et on peut observer, en fait, tout à fait la tumeur et les vaisseaux avoisinants. Et typiquement, la décision pour le chirurgien ici à prendre, c'est de réaliser des mastectomies partielles ou totales et le type de chirurgie qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre.
L'idée, c'est de sauver des vies. In fine, avec ce système-là, c'est ça? Parce qu'on va pouvoir mieux identifier et localiser les tumeurs, etc. C'est ça l'idée, pour résumer?
Toujours de sauver des vies en médecine. Concrètement, c'est éviter des réopérations en oncologie. C'est avoir des meilleurs taux de succès, c'est avoir des chirurgies moins invasives, c'est avoir des conséquences post-opératoires moins importantes pour les patients, une récupération plus rapide.
Donc pour l'instant, tout cet équipement est à l'Institut Curie. L'idée, c'est de le commercialiser dans tous les hôpitaux. Est-ce que vous avez des velléités à aller, par exemple, à l'international avec cette solution?
En fait, de facto, on est déjà à l'international puisqu'on est une start-up qui est basée à la fois en France mais qui opère déjà aux États-Unis. Oui. On a 3 sites pilotes aux États-Unis, 3 autres sites en France pour tester diverses applications, chirurgie vasculaire, chirurgie des sarcomes, chirurgie pédiatrique. Et l'idée, c'est effectivement de finaliser maintenant le produit, d'obtenir les autorisations réglementaires et de pouvoir le déployer commercialement dans tous les hôpitaux à partir de 2022.
Autre start-up à suivre en 2022, Pigment, qui a levé 73 millions de dollars, c'était au mois de novembre. Son cœur d'activité, c'est de créer facilement pour ses entreprises clientes le budget prévisionnel ou encore le business plan, des documents utiles à la fois pour de futurs investisseurs ou pour élaborer la stratégie des entreprises. Et parmi les clients de Pigment figurent déjà des grands noms, des grandes marques comme Deliveroo, Blablacar ou encore Mano Mano. Romain Nicoli, qui dans le passé avait fait partie de l'équipe cofondatrice de Criteo, est venu sur le plateau de BFM Business nous parler de Pigment, donc cette entreprise qu'il a co-créée il y a 2 ans.
Pigment, c'est une entreprise qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans et qui développe un logiciel de planification et de prévision pour les entreprises. Donc ça permet de créer le budget, le business plan, en simulant les revenus et les coûts.
Donc à tout moment, on peut montrer à des tiers, par exemple à des investisseurs qui vont investir dans la boîte, à un banquier, où on est notre feuille de route, vers quoi on tend à 2, 5, 10 ans et pourquoi on est en ligne ou pas avec notre objectif.
Absolument, montrer à des banquiers ou pour piloter l'entreprise en interne. Pour vous donner quelques exemples concrets de questions auxquelles Pigment peut permettre de répondre et de prendre des décisions, c'est par exemple le lancement d'un nouveau produit, l'expansion dans un nouveau marché, le recrutement de collaborateurs, le besoin en financement que vous citiez, ou la définition d'une nouvelle clientèle, par exemple. Tous les sujets opérationnels de l'entreprise qui ont besoin d'être mesurés quantitativement.
Alors, preuve de l'efficacité, hein, Blablacar, Mano Mano, Deliveroo, Spendesk, qui ont fait appel à Pigment pour effectivement planifier ce qu'ils allaient faire, leur business model notamment. Est-ce que vous avez réussi à calculer le temps qui était gagné par vos clients en utilisant Pigment ?
En moyenne, on estime que ça permet de diviser par 3 le temps qui est pris pour la planification de l'entreprise, ce qui permet de se concentrer à des tâches de plus forte valeur ajoutée. Donc de passer beaucoup moins de temps sur les tâches manuelles et d'explorer des scénarios stratégiques différents, de se focaliser sur ce qui va permettre à l'entreprise de se développer dans les meilleures conditions.
C'est quoi l'ambition avec ces 73 millions de dollars ? Qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors, cette nouvelle levée qui intervient après celle de l'année dernière, d'à peu près 20
ans. Ça va très vite, hein, d'ailleurs, hein, c'est impressionnant. Hein, 100 millions en 18 mois, quoi, c'est pas mal. Hein.
Donc, ça permettra principalement de se développer à l'international.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de. Le marché est gros à l'international pour vous.
Oui, alors pour nous, ça va être les cibles, c'est la France, l'Europe, mais surtout les États-Unis.
Avec cette internationalisation aux États-Unis, vous allez augmenter vos équipes, j'imagine ?
Oui, alors aujourd'hui, les équipes de Pigment, c'est 60 personnes, réparties à peu près pour moitié entre l'équipe de recherche et développement et l'équipe commerciale. Et donc, cette levée de fonds va permettre de faire grossir les deux pôles, c'est-à-dire de continuer à investir sur la recherche et développement et de faire grandir des équipes commerciales dans différents pays en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, où on va ouvrir un bureau dès le début de l'année prochaine, en fait.
Alors après le côté entre guillemets immatériel des solutions Pigment, revenons à l'industrie pure et dure, si je puis dire. Plusieurs entreprises osent la relocalisation. C'est le cas du slip français qui a fêté ses 10 ans en 2021 et qui a récemment lancé en France, près de Tours, une manufacture de fabrique de pantoufles. La pantoufle qui représente environ 15% du chiffre d'affaires du slip français. Peut-être le Père Noël vous en a-t-il apporté une paire le week-end dernier. En tout cas, dans un instant, eh bien, on va écouter Guillaume Gibault. C'est le président du slip français. Nous parler de cette nouvelle aventure industrielle. Mais tout d'abord, il revient au micro d'Edwige Chevrillon sur la très faible proportion du textile made in France, justement acheté par nous, les consommateurs français.
Selon les chiffres, entre 3 et 10% des produits textiles consommés en France qui sont effectivement fabriqués en France, donc la marche, elle est immense. Un autre chiffre, dans les années 90 en France, il y avait 460 000 emplois textiles. Aujourd'hui, il y en a 60 000, donc c'est effectivement 90% des emplois textiles qui sont partis fabriqués plus loin parce que moins cher en fonction du coût de travail. Aujourd'hui, on voit que le bon sens environnemental, sociétal, savoir d'où vient le produit, par qui il est fait, ça devient de plus en plus demandé par les clients, donc les entreprises s'y mettent. Et c'est vrai qu'il y a un vrai mouvement de fond pour relocaliser, mais le sujet reste entier, ça coûte plus cher, puisque le coût du travail en France coûte plus cher. Donc un produit textile à fabriquer en France, il va coûter 30, 40, 50, 70% plus cher que si on le fabrique en Chine. Donc il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat.
Si moi j'achète, je sais pas, des caleçons, si on achète 3 pour H&M, ça coûte 14 euros, 15 euros. Et chez vous, ça vous coûte quoi, 100 euros
coûter, exactement, ça va coûter 80, 90 euros. C'est certain, aujourd'hui, on va être 2, 3 fois plus cher que l'équivalent qu'on peut trouver dans la grande distribution ou chez H&M. Ouais. La vraie question, c'est quel prix a été acheté ce caleçon qui vaut 14 euros par l'autre de 3, combien il a été payé à la personne qui l'a fabriqué à l'autre bout du monde, quel est l'impact environnemental, quelles sont les normes dans lesquelles ça a été produit et combien est payé la personne qui l'a fabriqué. Et en vrai, pendant 30 ans, on s'est pas trop posé ces questions-là parce que c'est des questions qui sont compliquées. Non, c'est vrai que nous, nos produits à 35 ou 40 euros le sous-vêtement, c'est sûr que c'est plus cher. Après, le pari qu'on fait aussi, c'est de faire des produits de qualité qui vont durer plus longtemps, qu'on va acheter moins mais mieux. C'est toujours cette idée, hein, de se dire on va pas acheter 5 fois dans des vêtements, mais on va l'acheter peut-être une ou deux fois. On va bien les choisir, mettre un peu plus de sous, bien les entretenir. Et je pense que c'est un changement de mentalité profond. C'est pour ça que pour moi, c'est pas une rupture du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose de long terme.
Et les slips français alors ?
Alors les slips français, on se porte magnifiquement en cette année, 10 ans, un petit coup de vieux quand même, 10 ans, mais on se redit, on est devenu entreprise à mission l'année dernière, notre mission c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française.
Si on regarde aujourd'hui, vous avez 25 000 ans de chiffre d'affaires.
Oui, à peu près.
C'est quoi, il y a le slip, le chandail
Aujourd'hui, c'est notre premier métier, c'est le sous-vêtement, 40%, les vêtements 20%, le pyjama 15% et le chausson avec justement la pantoufle et qui est notre, je vais vous en parler, 15%. La pantoufle, c'est assez dingue, moi j'aime l'histoire.
J'adore les pantoufles, c'est pour ça que je...
La pantoufle, nous, ça fait 5 ans qu'on en vend et ça fait 5 ans qu'on travaille avec les fabricants historiques de Charentaise et la demande est telle qu'on n'arrive pas, avec ses partisans et ses partenaires historiques, on n'arrive pas à fabriquer assez vite. Et du coup, on s'est dit, ça fait 5 ans qu'à Noël, on est en rupture de stock, d'abord au 10 décembre, puis l'année d'après au 15 novembre, puis derrière au 1er octobre. On se dit, on va essayer de trouver une solution. On pourrait, comme dans l'ancien monde, aller fabriquer plus loin et les acheter dans un autre pays. En fait, non, on se dit qu'on va peut-être prendre la voie difficile, mais celle qui colle avec notre mission d'entreprise, d'ouvrir une usine. Donc on vient d'ouvrir là à Châtillon-sur-Indre, à côté de Loches, à côté de Tours pour ceux qui voient sur la carte de France, la manufacture de pantoufles. Et on fabrique aujourd'hui entre 50 et 100 paires de pantoufles par jour dans cette usine avec voilà un savoir-faire. On a acheté les machines, on a 4 personnes qu'on a embauchées plus un formateur et on met de grands espoirs dans cette manufacture de pantoufles pour arriver à répondre à la demande.
Et pour terminer cette première émission de 2022, une entreprise française qui a des ambitions un peu partout dans le monde, c'est Sunday, dont le système est déjà utilisé en France, mais aussi à Londres, à Madrid et aux États-Unis. Alors Sunday, eh bien, c'est un procédé qui s'appuie sur le désormais très utilisé QR code, mais cette fois-ci pas de passe sanitaire ou vaccinal à la clé, mais plutôt l'accès à l'addition quand on est dans un café ou dans un restaurant. Sunday, en moins d'un an d'existence, est un véritable succès qui séduit à la fois les clients, les restaurateurs et les investisseurs, avec déjà plus de 100 millions d'euros levés. On va écouter les explications de Victor Luger, c'est le cofondateur de Sunday, mais aussi des restaurants Big Mama. Il était l'invité d'Edwige Chevrillon, c'était au tout début du mois d'octobre, à l'occasion d'une deuxième levée de fonds.
Je prends mon téléphone, je scanne un QR code, hop, j'ai l'addition sur mon téléphone instantanément, je scrolle, j'appuie sur payer, je paye, je me lève, c'est fait. 7 secondes. On a lancé ça il y a 5 mois. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus d'un million de personnes qui ont payé avec Sunday, des milliers de restaurateurs.
1500, enfin, c'est ce que vous dites. Hein.
On est aux États-Unis, on est à Londres, on est à Madrid, on est en France, mais on est à Paris comme en province. Et on a l'hippopotamus de la Défense avec des milliers de clients, des grandes brasseries, évidemment des restos trendy parisiens. On a aussi des petits restaurants familiaux en province. On a des restaurants dans les Cotswolds ou à Édimbourg. Ce qui est fascinant, et la raison, je pense, pour laquelle on annonce aujourd'hui une levée de fonds tellement importante, c'est que ce qui était une intuition.
Ça fait 5 mois, vous vous rendez compte?
Ce qui était une intuition il y a 5 mois, on se disait « Ah, ça marche à Paris, c'est super, chez Big Mama, chez leurs copains ». Aujourd'hui, c'est plus d'un million de personnes. On a redistribué plus d'un million de pourboires à plus de 2000 serveurs, et tout ça en l'espace de quelques mois. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est que le monde bascule. Il y a 10 ans, vous leviez la main pour commander un taxi, aujourd'hui, ça ne viendrait plus à l'idée de personne. Dans le monde de demain, on paiera évidemment avec Sunday. Pourquoi? Parce qu'en tant que client, l'obsession des restaurateurs, c'est donner à leurs clients le meilleur moment de leur journée. Moi, je suis client, si ça peut me prendre 7 secondes plutôt que 15 minutes, si c'est facile de laisser un pourboire, de partager l'addition, évidemment, je le fais. Et pour le restaurateur, vous imaginez, la table tourne en moyenne 15 minutes plus vite, 12% de tickets moyens en plus. Pourquoi? Parce que vous avez le temps de prendre un café, vous avez le temps de prendre un dessert. Et puis le serveur, au lieu de courir à apporter l'addition à la 14, il vient et il vous dit « Edwige, un petit verre de vin, aujourd'hui on a une burrata, elle arrive directement des Pouilles ». Aujourd'hui, grâce à Sunday, les serveurs se concentrent sur la partie noble du métier. On est tous passionnés dans ce métier, mais ce qui nous passionne, ce n'est pas de porter des additions. Ouais. Ce qui nous passionne, c'est de conseiller les clients, c'est de les chouchouter.
Et en 2022, que ce soit dans les bars ou les restaurants, se souhaitent tous, certes, de payer avec Sunday, mais surtout de venir sans masque et sans passe vaccinal. Un jour peut-être. En tout cas, une nouvelle fois, je vous souhaite une excellente année 2022. On se retrouve le week-end prochain pour un tout nouveau numéro, le 259e de La France à tout pour réussir. D'ici là, bon week-end et très belle semaine, très bonne reprise peut-être. Et à très vite sur BFM Business.
BFM Business, La France à tout pour réussir.